autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, en compagnie de mes consoeurs et confrères de la presse scientifique. Venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine, ils sont pour vous. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous ferons le point avec Thomas Cavalier-Foll dans Science et Vie sur les recherches les plus prometteuses en termes de traitement et surtout de vaccins. Après 40 ans d'échecs, comment le Covid pourrait peut-être faire renaître l'espoir d'un vaccin contre le VIH. Nous partirons ensuite sur les traces d'un continent englouti, Islandia, à découvrir dans Science et Avenir avec Mathieu Novak. Islandia qui pourrait bien être le morceau manquant du puzzle du super continent unique, la Pangée, qui occupait toute la Terre il y a 240 millions d'années. Que ressent-on quand un monde s'effondre ? Question ouverte avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho qui consacre son dossier à l'éco-anxiété. Comment y échapper ? Ou plutôt comment prendre soin et de l'environnement et de nous-mêmes ? On tentera de le faire les pieds sur terre et la tête dans les étoiles avec Philippe Hénaré-Jos dans Ciel et Espace. Nous remettrons en question le tourisme spatial avant de nous jeter dans les bras de la Voie lactée et après avoir plongé jusque dans les abysses sur les traces des ressources inespérées que lorgne déjà industriel, militaire et scientifique. La guerre des abysses va-t-elle commencer ? On verra ça avec Vincent Nouériga dans Epsilon, inspirant programme, sidérant programme, qui commence en musique, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, avec Objectif Zéro du groupe congolais Okapi Musica.
Objectif Zéro, zéro nouvelle infection. Objectif zéro, zéro discrimination. Objectif zéro, zéro décès lié au sida.
Moto oyo azali na sida, azali lokola moto nyonso. Lingaye, yambaye, yokaye, pe tosaye.
Ton frère qui souffre, ne le stigmatise pas. Prends-le dans tes bras, fais-lui des câlins, sois près de lui, ne l'abandonne pas.
Tungane, kwa sikukuu hii ya kimataifa ya kupinga ukimwi, ajili ya kukomesha kabisa virusi vya ukimwi hadi mwaka wa 2030.
Objectif zéro, zéro nouvelle infection.
Nations Unies.
Objectif zéro,
UNESCO.
Zéro discrimination.
ONU SIDA.
Objectif zéro, zéro décès lié au SIDA.
Moto oyo azali na SIDA.
Objectif zéro, zéro nouvelle infection, ça serait le meilleur qu'on puisse se souhaiter avec le groupe congolais Okapi Musica en ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Thomas Cavalier-Foll, vous consacrez votre dossier, c'est la une aussi de Science et Vie, à 40 ans de recherche sur le VIH-Sida. 40 ans et toujours pas de vaccin, sauf que le Covid pourrait peut-être faire renaître l'espoir d'un vaccin contre le VIH, avec tout de même des pistes prometteuses.
Exactement, ouais. C'est là, en tout cas ce que montre l'enquête de notre journaliste Coralie Hancock. L'épidémie de sida, elle est encore là en fait. On a tendance à l'oublier, mais par exemple sur l'année 2020, il y a eu 1,5 million de nouvelles contaminations et quasiment 700 000 décès dus à l'épidémie de sida.
Donc ça circule. Hein,
ça circule. Court, hein. Alors il est bien sûr important de souligner que on vit très bien avec le sida aujourd'hui, avec la trithérapie.
Si elle est prise, on a les traitements.
Quand on a les traitements, bien entendu. Si c'est pris suffisamment tôt, on a une espérance de vie tout à fait normale. Mm-hmm. Et puis même, ça permet de baisser le taux de virus dans le sang à un point où ce n'est plus contagieux. Reste que l'épidémie n'est absolument pas contrôlée. Et que, pour reprendre les mots de Jacques Chirac, en 2004, ça ne pourrait arriver qu'avec l'arrivée d'un vaccin. Et 40 ans que l'épidémie officielle est là, 40 ans d'échec de la médecine, ça pose la question aujourd'hui. Rien que vu la vitesse avec laquelle les vaccins ARN du Covid ont été élaborés, pourquoi on n'y arrive pas avec le VIH ? En fait, la réponse, elle est ultra simple. Et elle est assez incroyable parce qu'elle nous met face au défi que représente l'élaboration d'un vaccin contre le VIH. C'est que le vaccin, normalement, il va viser à mimer la réponse immunitaire naturelle pour guérir d'une maladie. Mmh. Or, on guérit du Covid, on guérit de la polio. On peut faire un vaccin du Covid et de la polio. On ne guérit pas du sida. Du coup, faire un vaccin contre le VIH, ça veut dire ne pas seulement mimer la réponse immunitaire, c'est la dépasser.
À faire mieux que ça, mieux que la réponse immunitaire.
Exactement, faire mieux que la réponse immunitaire, en fait. Parce que deuxième chose qui est super dure dans cette infection, c'est que la plupart des vaccins aussi ne vont pas viser à interdire l'accès, l'infection, mais vise à réduire le nombre de formes graves de la maladie. Mmh. Or, dès que le VIH rentre dans l'organisme, il est déjà là. Il va se mettre, vous savez, dans des lymphocytes. Ce sont des cellules piliers de notre système immunitaire. Une fois qu'il est dedans, on n'arrive plus à l'en déloger. Et la troisième chose, c'est qu'on parle beaucoup de variants Covid. Mmh. Sauf que les variants du VIH, c'est incroyable. Il y a 4 variants principaux, puis un de ces variants a 9 sous-types principaux. Puis, entre ces différents variants, il y a des formes recombinées qui prennent différents variants. Et chaque personne, chaque porteur du VIH peut présenter plusieurs variants dans son propre organisme. Bref, c'est l'enfer.
C'est l'enfer. Est-ce qu'il signifie quoi? Qu'on n'y arrivera pas? Qu'on n'y arrivera jamais?
Parce que c'est toujours ça. Ça oblige les chercheurs à se dépasser. Mmh. Et ce qu'ils sont en train de mettre en point dans les laboratoires, là, on en a mis 7 en valeur, mais c'est absolument formidable.
C'est-à-dire que 7 vaccins prometteurs,
en phase d'essai, ouais. Et c'est des choses qui sont absolument formidables. Ouais. Donc, il y a bien sûr, vous avez dit tout à l'heure que le Covid avait pu relancer un peu cette recherche. Et effectivement, c'est le cas parce qu'on a vu l'arrivée de la technologie ARN, par exemple. Là, pour le VIH, c'est pas seulement la technologie ARN qui est utilisée, mais aussi la technologie ADN. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va directement injecter l'ADN du virus dans l'organisme. Cet ADN, il passe dans les cellules, mais il passe dans le noyau des cellules, ce que ne fait pas bien sûr les vaccins Covid
qu'on connaît
actuels.
Aujourd'hui,
là, il est transcrit en ARN pour être ensuite traduit en protéines. Et donc, ça va venir stimuler la réponse immunitaire. Là, il y a plusieurs essais qui sont en cours, notamment en Ouganda et au Mozambique, qui sont déjà en phase 2. Et
qui sont prometteurs
En tout cas, c'est ce que disent les chercheurs. Les chercheurs qu'on a interrogés nous ont dit que ça avait fait une réponse immunitaire forte et large, c'est-à-dire qu'il pouvait être aussi sur plusieurs variants, en fait, parce que c'est toujours ça. Il faudrait que le vaccin puisse aller sur plusieurs variants. Mais effectivement, on aura les résultats de ce test-là en 2023.
Donc, vaccin prometteur, peut-être. Et puis, vous dites aussi dans cette enquête, peut-être que la solution ne viendra pas d'un vaccin, peut-être d'autres traitements à venir aussi contre le VIH.
En fait, les traitements, ils sont déjà là, on les a déjà vus, ils sont déjà efficaces, effectivement. Ouais. Il y a non seulement la trithérapie qui marche extrêmement bien, l'arrivée de la PrEP a été aussi formidable, la PrEP va pouvoir être en injection aussi bientôt, la trithérapie aussi, il y a de nouvelles formes de trithérapie, il ne faudra plus prendre des comprimés tous les jours, mais une injection tous les mois, je crois, et ça suffira pour ça. Il y a ces fameux patients de Londres ou les patients de Berlin qui ont, eux, bénéficié d'une greffe de moelle osseuse de personnes qui étaient naturellement immunisées contre le VIH et qui, on a l'impression, on ne peut pas dire qu'ils sont guéris, mais en tout cas, ils ne présentent plus de particules virales. On n'arrive plus à en détecter chez eux. Mais non, c'est la vraie piste aujourd'hui, c'est le vaccin. Ouais. Tout à fait.
Vaccin contre le VIH. Alors comment les essais pourront-ils être suffisamment prometteurs? Comment le Covid peut faire renaître l'espoir? C'est le dossier et la une de Science et Vie de ce mois de décembre, donc disponible en kiosque et que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs. Je vous le rappelle, si vous nous le demandez par mail sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Merci Thomas Cavaillé-Foll.
De rien.
Autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On va maintenant s'intéresser à un continent englouti, récemment découvert par des géophysiciens. Ce n'est pas de la fiction ni une légende. C'est dans Science et Avenir de ce mois de décembre. Mathieu Novak, avant de découvrir Islandia et de réécrire peut-être l'histoire de la Terre, on commence par plonger dans notre jeunesse avec la bande-annonce des mondes engloutis. Non, on n'a peur de rien.
Dans toutes les strates et les mondes engloutis, Spartacus, Bob, Rebecca.
Les meilleures choses ont une fin, les mondes engloutis, chantés par les mini-stars carrément, mais tout de même sur une musique de Vladimir Kosma. Ça vous rappelle peut-être, Mathieu Novak, un feuilleton télévisé d'animation dans la fin des années 80 ?
Oui, oui, même au début des années 80, je pense. J'ai vu ça en rentrant de l'école. Merci, merci pour ce souvenir, Caroline.
Pour ce souvenir nostalgique. Bonjour, Mathieu. Les mondes engloutis, c'était quand même de circonstances autour d'Islandia, donc ce continent englouti que vous nous faites découvrir dans Science et Avenir. Et qui pourrait bien être une pièce manquante du supercontinent Pangée.
Alors oui, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Là, en ce moment, on envoie des choses là, dans l'espace, comme le James Webb, hyper loin, voire l'infini. Et en fait, comment est faite la Terre ? C'est des choses qu'on connaît finalement assez mal. Alors, les continents, quand on regarde une map monde, je vous invite à le faire. Bon ben voilà, on voit les continents, c'est là où il n'y a pas d'eau en gros. Donc c'est la première image et jusqu'au début du XXe siècle, c'est comme ça qu'on voyait les continents. Et puis après, il suffit de, si vous n'êtes jamais posé la question, vous regardez la forme qu'a le continent américain et la forme du continent européen et africain, si vous les rapprochez, ça colle. Et c'était ça les premières idées au début du XXe siècle, de se dire, mais c'est quand même bizarre que ça colle si bien. Et c'est à partir de là où on a vu qu'en fait, la Terre... Ça a été très long à admettre. Mais la Terre n'est pas quelque chose de figé, mais il y a des continents qui se déplacent et qui se déplacent au fur et à mesure.
Donc, la dérive des continents.
La dérive de continents qui a été théorisée au début du XXe siècle par Alfred Wegener et qui a été très, très difficile à démontrer. Et aujourd'hui, qui est admise, mais la notion même de continent, elle reste compliquée. Ça, c'est plus compliqué que juste ce qui est émergé. Et en fait, les continents, on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas aussi bien. Parce que les géologues, ils parlent pas de continents, ils parlent plutôt de plaques continentales par opposition à plaques océaniques. Il y a deux types de plaques, en fait, comme si c'était un puzzle qui recouvrait la Terre. Il y a deux types de plaques. Et donc, quand ils ont regardé l'Islande, ils se sont dit, bon, c'est au-dessus d'un endroit qui s'appelait une dorsale, c'est là où naissent justement les plaques océaniques. Ils se disent, bon, c'est un truc bizarre, un point chaud, il y a un petit morceau de continent qui est là, bon. Et en fait, en cherchant quelle est la nature des roches qu'il y a là-bas, en analysant un peu, ils se sont dit mais non, en fait, ici, on a une vraie, c'est pas un morceau de plaque océanique qui est sorti, c'est un continent, c'est une plaque continentale. Et en regardant un peu maintenant sous l'eau, ils ont vu qu'on est peut-être en présence d'une plaque, d'une grande plaque continentale engloutie, qui serait de l'ordre sous l'Islande. Et en fait, c'est un peu comme si vous aviez un sous-marin, et en fait, l'Islande, ça serait juste
le point émergé de l'iceberg, quoi.
Exactement. Et qui pourrait s'étaler sur 600 000 km² jusqu'à 1 million. C'est plus grand que la France. Donc, ça reste pas un continent gigantesque, parce qu'on en connaît d'autres, des continents comme ça, mais ça, on n'avait pas l'idée qu'il puisse y avoir un continent à cet endroit-là.
Et ça permettrait quoi ? Peut-être pas vraiment de réécrire l'histoire de la Terre, mais en tout cas de comprendre comment la Pangée, donc cet unique continent, pouvait exister sur Terre autrefois. Il y a quoi ? Il y a plus de 240 millions d'années.
Ouais, voilà. En fait, si on remonte encore plus loin en arrière, on a vu qu'à peu près il y a 3 milliards d'années. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années à peu près, pour avoir des ordres de grandeur. À 3 milliards d'années, il y a des continents qui sont apparus et qui ont commencé à se déplacer. Donc, ce dont vous parliez, la dérive des continents. Et en fait, tous ces continents bougent en permanence. Ils bougent, parfois ils s'évitent, parfois ils passent d'un côté, et parfois ils se rencontrent. Alors, ils peuvent se rencontrer se rencontrer frontalement et donner une chaîne de montagnes. L'Himalaya, par exemple, c'est deux continents qui se rentrent dedans. Et parfois aussi, au gré du hasard, ils se rassemblent tous en un super continent. On estime qu'il y a eu déjà 15 fois un super continent. Mmh. Et le dernier, c'est celui dont vous parliez, la Pangée, effectivement, il y a 260 millions d'années. Alors, 260 millions d'années, c'est le temps des dinosaures. Et les dinosaures étaient en train de se balader partout. Et ce continent s'est fracturé il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire au moment à peu près, c'est concomitant avec la disparition des dinosaures pour former... Enfin, il s'est commencé à se fracturer avant, mais on a eu l'aspect actuel à peu près à ce moment-là.
Et entre-temps, on est passé par d'autres stades, le Gondwana, voilà. d'autres grands continents.
De comprendre le Gondwana, c'est la première partie de la Pangée coupée en deux. On avait la Pangée qui s'est coupée d'abord en deux, en Gondwana et l'Eurasie, et puis après les cinq continents ou plus donc, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc l'intérêt, c'est que donc, là, j'ai parlé de ces cinq continents à tort, parce qu'il y en a sans doute plus, mais il faut bien connaître toutes ces pièces du puzzle pour savoir comment ils s'assemblaient en une seule pièce avant et comment ils pourraient s'assembler dans le futur à nouveau en une seule pièce, parce que ça, on est quasiment sûr que ça va arriver.
Et c'est ça aussi, ça va permettre de finalement d'écrire l'histoire de la Terre à venir, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui va se passer dans les millénaires et les centaines de millénaires
millions d'années
qu'on verra pas.
À 200-250 millions d'années.
Là, donc,
mais on est à peu près sûr que les continents vont tous se rassembler. Il y a deux hypothèses. Soit ils vont tous se rassembler vers le pôle Nord avec juste l'Antarctique qui reste au Sud, soit ils sont plutôt vers l'équateur. Et ça, ça a des modélisations importantes parce que si ça se passe au pôle Nord, eh ben il va faire très très froid, le niveau de la mer va baisser, les océans vont geler, les courants océaniques vont s'arrêter et ça va être très très difficile qu'il y ait encore de la vie sur Terre. En revanche, s'ils se rassemblent tous au niveau de l'équateur, là, on aura des zones qui seront sûrement favorables.
Enfin, on ne sera pas là pour en parler. Je ne pense pas, cher Mathieu Novak. En tout cas, c'est passionnant. Entre science, donc, et carrément géographie, mais aussi presque science-fiction, j'ai envie de dire légende, dérive de continent, le continent englouti quand Islandia réécrit l'histoire de la Terre. Article à lire absolument dans Science et Avenir de ce mois de décembre, dont nous avons bien sûr un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs.
Plusieurs
exemplaires. Merci. Je les compte absolument. Il y en a 1, 2, 3, 4. Formidable. 4 exemplaires à gagner de Science et Avenir. Et tout ça, ça sera avant et même après la fin du monde. Interprété par Terre Noire et Barbara Pravi sur RFI. Histoire de se mettre en condition pour traiter notre éco-anxiété avec vous, Cécile Lestienne, à suivre dans Cerveau et Psycho.
Qu'on est trop nombreux, que nous manquerons d'arbres et d'ombre, qu'on courra le long des courants de la rakiri du monde.
Je sais mon amour, je vis dans ce monde moi aussi. Depuis toujours tu sais, depuis toujours. Oh je sais mon amour, je vis dans ce monde moi aussi. Depuis toujours.
Même en pensant à tout ça, je dois être fou je sais pas ou quoi. Mais j'aimerais que tu me fasses quand même un enfant, ouais. Un genre de diamant au cou de la vie, issu de nos corps, un genre de diamant. Et même si nous devons finir mort-vivant, à moitié en vie, au moins je vivrai avec vous ici. Au moins je vivrai avec vous ici. Je vivrai avec vous ici, avec vous ici, avec vous ici.
La fin du monde sur RFI. Bon, heureusement, c'est pas pour tout de suite. Enfin, on l'espère. Hein. Même si l'effondrement nous guette et puis surtout l'éco-anxiété. Et ça, c'est le dossier de ce mois de décembre de Cerveau et Psycho, Cécile Estienne. L'éco-anxiété. Comment y échapper ?
C'est pas de façon très simple. Enfin, tout le monde n'est pas éco-anxieux non plus. Alors, l'éco-anxiété, c'est pas une nouvelle maladie psychiatrique. Hein, il faut pas exagérer. L'éco-anxiété, c'est plutôt l'idée qu'il y a un lien entre effectivement l'anxiété, enfin le fait qu'on puisse être concerné par tous ces problèmes de réchauffement climatique et de biodiversité, enfin tous les problèmes environnementaux qui nous entourent aujourd'hui et que nous devons relever, et certains troubles psychiatriques, c'est-à-dire que les psychiatres voient arriver ces thématiques-là chez des patients qui sont par ailleurs anxieux ou dépressifs ou qui ont des TOC ou qui sont un peu hypochondriaques. Enfin, voilà.
Ça en rajoute, ça finalement. Il y a vraiment de quoi en rajouter à l'anxiété.
Ça en rajoute ou ça le fixe. Voilà. Mm-hmm. Par exemple, alors, c'est pas nouveau. Alors, évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, on entend parler de plus en plus, mais c'est pas nouveau parce qu'il y avait déjà une étude de 2012 en Australie qui montrait qu'environ un tiers des personnes en Australie qui souffraient de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, mm-hmm. voilà. Un tiers d'entre eux avaient des TOC liés justement à leur impact carbone. Et donc, ils avaient des TOC autour de vérifier tout le temps les interrupteurs ou vérifier que les robinets ne fuient pas ou vérifier les consommations de leurs appareils électriques. Enfin, tout ce genre de choses qui, effectivement,
ça
sont liées à leur
impact. Ça se place là-dessus.
Voilà. Et donc, ce n'est pas nouveau. Une étude plus récente, là, de l'année dernière, enfin de 2020, qui a été faite dans l'état de Tuvalu, qui est donc un archipel en Polynésie,
dans le Pacifique,
a montré que 87% des habitants souffraient d'éco-anxiété, au point que ça les empêchait de faire, faire au moins une de leurs activités quotidiennes par jour, par définition. Alors,
on peut comprendre parce qu'ils sont vraiment sous la menace de la montée des eaux.
C'est ça, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit archipel. Je crois qu'il y a 9 atolls, voilà, qui s'acculminent à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, évidemment, le réchauffement climatique est un sujet d'angoisse absolument permanent pour les habitants de Tuvalu. Alors, ce n'est pas vrai, évidemment, pour tous les terriens, mais on sent quand même cette fixation-là qui prend corps. Voilà.
Et notamment chez les jeunes aussi, de plus en plus conscients de ce changement climatique et de toutes ces crises à venir environnementales.
Il semblerait qu'en France, une étude de l'année dernière aussi a montré que pour les 60% des 15-25 ans, leur plus grand sujet de préoccupation, je n'ai pas dit qu'ils étaient éco-anxieux, mais leur plus grand sujet de préoccupation, c'est l'environnement. Voilà. En revanche, une étude internationale qui est parue dans le Lancet, là, sur 10 000 personnes, 10 pays, montrait toujours sur la même tranche d'âge, là, 10-25 ans, que l'éco-anxiété, là, au sens plus strict, autant qu'elle soit définie, concernait 45% d'entre eux. C'est quand même beaucoup.
Oui, c'est quand même beaucoup.
En même temps, on peut le comprendre, parce que c'est eux qui, évidemment, vont vivre tous ces changements climatiques qui arrivent. C'est donc, eux qui vont devoir affronter ça. Donc
et puis c'est réel. Mais c'est ça. La question, c'est que c'est réel. Au fond, c'est peut-être pas comment y échapper, mais comment est-ce que faire pour que ça ne vous paralyse pas ou que ça ne vous... C'est ça, en fait.
Alors, évidemment, il y a quelques conseils quand même à donner. Je pense qu'une des difficultés aujourd'hui pour les psychiatres, pour le personnel soignant, c'est que souvent, ils ont à prendre en charge des troubles, si j'ose dire, un peu exagérés. Voilà. Les gens qui sont phobiques des araignées... Voilà, on peut essayer de leur montrer que non, ils ne vont pas être mangés par les araignées. Quand évidemment, ce défi climatique, on ne va pas leur montrer que ce n'est pas vrai. Il ne faudrait surtout pas tomber dans le déni. Oui, il existe. Et c'est d'ailleurs peut-être que l'éco-anxiété est une chance, peut-être, pour notre société d'aujourd'hui.
De nous faire bouger.
C'est un accélérateur, peut-être, pour nous faire prendre conscience, et tout ça. Et sinon, il faut faire aussi ce qu'on fait d'habitude pour soigner l'anxiété. Alors, il y a des gens très préoccupés qui ne sont pas du tout éco-anxieux. Ils sont juste préoccupés. Mm-hmm. Tout le monde n'est pas malade de ça, n'a pas mal au dos, mal au ventre. Il n'est pas dépressif. Mais une des meilleures choses à faire, c'est agir, en fait.
C'est ça. Hein.
C'est agir. C'est surtout pas se laisser tétaniser par cette angoisse qui monte, cet énorme défi à relever. C'est agir. Alors, c'est agir à tous les niveaux. Ça peut être les petits gestes du quotidien. Alors, je sais bien qu'on peut toujours dire que ça suffira pas, que ça sera pas à la hauteur. Mmh. Oui, mais en même temps, si on était 7 milliards de terriens à faire les petits gestes du quotidien qui seraient plus en adéquation avec ce défi, ça irait quand même mieux, d'une part. Et puis, ça peut être militer dans des associations. Ça peut être plein de choses. Ça peut être se mettre effectivement en ligne avec ses propres valeurs et ses propres préoccupations en fonction... C'est peut-être plus subir. Facile pour les jeunes parce qu'ils ont leur métier est devant eux, donc ils peuvent peut-être choisir quelque chose qui leur correspond vraiment, alors que les adultes d'aujourd'hui plus âgés sont parfois en contradiction entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Je pense que ça c'est la chose.
C'est-à-dire donc vraiment reconnaître au fond l'éco-anxiété, reconnaître qu'il y a de quoi, mais que c'est pas pour ça qu'on va être paralysé, et qu'en faisant quelque chose, en s'y intéressant, en prenant conscience c'est en agissant, on n'est plus finalement, on ne subit plus seulement ce qui nous arrive. C'est un peu ça aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut éviter le déni, mais éviter aussi ce sentiment écrasant d'impuissance. Voilà, et puis se rappeler aussi que nos ancêtres ont vécu dans des conditions très difficiles.
Mais oui, mais oui.
Et on est toujours là pour le savoir. Donc voilà, peut-être qu'on on va y arriver.
Et puis j'ai aussi lu dans cette enquête à quel point finalement prendre soin de l'environnement, c'est aussi et d'abord peut-être prendre soin de soi.
Bien sûr. Alors...
Donc ça, je trouve ça joli comme manière d'être, non pas l'égoïsme absolu, mais de dire on fait attention à tout, on prend soin.
On prend soin. Et puis on sait très bien que le contact avec la nature est très rassénérant. Voilà, aller dans la forêt, s'occuper de son potager, ça fait beaucoup de bien à la tête, c'est probablement pas plus mal pour la planète. Protéger ce qu'il y a autour de soi nous aidera à nous faire du bien aussi à nous-mêmes.
Absolument, donc pour reconnaître, identifier et faire fructifier finalement notre éco-anxiété, dossier complet à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois de décembre, disponible en kiosque bien sûr, et à gagner par mail si vous nous le demandez ou sur notre page Facebook autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans les abysses. En plongée musicale d'abord avec le groupe MPL, Ma Pauvre Lucette, qui nous entraîne dans le mystère abyssal, une vraie découverte, avant de retrouver Vincent Nuirega pour le dossier d'Epsilon consacré ce mois-ci à la guerre des abysses, l'ultime frontière de notre planète, ça promet.
Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie. Au début, elle nous parlait par radio. La descente semblait belle, mais assez vite, on a perdu sa trace. Et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignent la surface. On s'est retrouvés seuls avec nos questions insondables. Combien de temps va-t-elle passer là-bas? Est-ce qu'elle va y rester? Pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi c'est pas tombé sur moi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça doit venir de moi? On attendait le gong, et les heures étaient de plus en plus longues. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. Bien sûr qu'à cela coule douce.
Mystère abyssal, signé MPL sur RFI pour partir à l'assaut des abysses. Avec vous, Vincent Nuirega, bonjour. On va ouvrir le dossier qui fait la une d'Epsilon. La guerre des abysses a commencé et pour cause. Les fonds marins regorgent de ressources inexploitées, inexplorées, de quoi exciter à la fois toutes les convoitises et toutes les tensions. C'est un peu ça, hein ?
Ouais, c'est tout à fait ça. Déjà, ça vient d'une frustration de la plupart des scientifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des fonds marins qui sont à peu près correctement cartographiés. Donc il y a une envie déjà d'aller voir, mais effectivement, il y a une envie un peu plus prosaïque qui vient de notre soif insatiable de ressources, évidemment, qui est d'essayer d'aller exploiter. Alors il y a plusieurs types de ressources. Il y a des dépôts sulfurés près des dorsales. Vous avez aussi des petits nodules qui sont comme des cailloux aussi gros que des pommes de terre sur des plaines abyssales qui sont à 4 ou 5 000 mètres de profondeur. Et vous avez aussi des petites croûtes de cobalt qui sont le long des reliefs marins. Alors ça fait des décennies qu'on en parle. En fait, même dès les années 50, il y avait ces espèces de projets Jules Verniens, en tout cas beaucoup de fantasmes. Pas mal de géologues avaient envie d'aller les chercher, mais on n'avait pas forcément les moyens. Aujourd'hui, vous avez des drones sous-marins qui vont à 6000 mètres de profondeur sans trop de problèmes. Vous avez des robots qui commencent à descendre et qui commencent à avoir une certaine autonomie, une certaine agilité. On reste encore un peu balourd quand même dans les grandes profondeurs. On est sous des pressions hallucinantes et des centaines de barres de pression, il fait une obscurité totale, c'est très corrosif, c'est très oppressant, c'est très froid. Bon, ça, à la rigueur, le matériel peut le supporter, mais la pression, c'est un vrai
souci. Très extrême, la pression, même pour des robots, même pour du matériel.
Même pour des robots, il faut les blinder de titane. Et puis, il y a surtout ce que je disais tout à l'heure, on connaît mal les reliefs sous-marins, donc il y a besoin de toujours faire une géographie du lieu pour pouvoir mieux l'explorer.
Donc, on comprend pourquoi les scientifiques descendent de plus en plus profond et essaye de faire la carte finalement géologique des abysses, des grandes profondeurs. On comprend aussi pourquoi industriels et militaires s'intéressent de très près à ce qui se passe dans les profondeurs et à améliorer finalement l'équipement pour explorer, voire pour encore exploiter ces ressources qui sont, j'ai envie de dire, heureusement pour le moment inexploitables.
C'est ça. Alors, on se dispute pour ces ressources. On veut les protéger aussi. Nous, la France, on a effectivement le deuxième domaine maritime mondial juste derrière les États-Unis, et en ce moment même, le ministère des Armées français est en train d'établir une stratégie de maîtrise des fonds marins, de défense des fonds marins. Donc il s'agit effectivement de se défendre par rapport aux ressources, de protéger nos ressources et aussi protéger les câbles sous-marins. On le sait depuis quelques années, vous avez régulièrement des choses un peu bizarres qui se passent, notamment il y a des bateaux russes qui a un bateau russe, notamment le Yantar, qui est un bateau plus ou moins espion, qui navigue à la verticale de nos câbles sous-marins en Atlantique. Cet été, il était en Irlande. Il tourne un peu autour de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a besoin de protéger ses câbles sous-marins, évidemment, sinon elle est coupée totalement d'Internet. C'est le cas aussi de la France. En Méditerranée également, vous avez 10 câbles qui arrivent à Marseille. Et il y en a 30 qui arrivent à Singapour. Donc, ce sont des endroits qu'il faut protéger. Les câbles sous-marins, c'est vraiment un enjeu très très fort. Il y en a à peu près 500 dans le monde.
Et on est tous très dépendants de tous ces câbles.
Complètement dépendants. C'est 97% des informations entre les continents qui circulent à travers les câbles sous-marins. Les grandes constellations d'Elon Musk avec 42 000 satellites, c'est rien du tout en termes de débit. C'est même pas un dixième de câbles sous-marins, une fibre, un couple de fibres optiques, pas plus, une paire de fibres optiques, pas plus. Donc c'est vraiment un câble sous-marin.
Ce sont des enjeux vraiment géopolitiques aujourd'hui. Qui maîtrisera ou comment maîtriser les fonds sous-marins? On peut en tout cas faire peur avec ces bateaux espions.
C'est ça, on fait peur. C'est très opaque. Comme c'est un milieu très opaque, ça se prête à beaucoup de fantasmes. Aussi à beaucoup de coups tordus. Il y en a eu pendant la guerre froide avec des Américains qui ont réussi à espionner un câble sous-marin russe, soviétique à l'époque, dans des conditions totalement dantesques avec des commandos, etc. etc. Bon, là, on n'était pas vraiment dans les abysses, évidemment. On ne sait pas très, très bien agir à 4000 ou 5000 mètres de profondeur pour pouvoir écouter un câble sous-marin. Ça paraît très, très compliqué. Mais
maintenant, avec des drones espions, avec des robots espions.
Il y a une prolifération de drones dans les abysses en ce moment. Enfin, c'est accessible sur le marché. Vous avez un certain nombre de drones qui sont tout à fait accessibles sur le marché. Et des pays comme le Japon, la Corée du Sud, ou voire les Philippines peuvent s'en doter. Et effectivement, on craint une certaine prolifération des drones avec des actions plus ou moins louches.
Pour tout savoir sur cette guerre des abysses en une d'Epsilon, la guerre des abysses a commencé carrément entre Info et Intox, mais justement pour bien comprendre, c'est donc à lire dans ce nouveau numéro d'Epsilon dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, en vous rappelant de bien préciser votre adresse postale quand vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Eh bien merci Vincent, on va maintenant remonter des abysses pour partir dans l'espace. Et oui, carrément, avec Philippe Hénard et de Ciel et Espace, qui nous invite jusque dans les bras de la Voie lactée pour remettre en question le tourisme spatial. Je vais y arriver. Peut-on vraiment qualifier d'astronautes les riches qui s'envoient en l'air? On s'interroge à l'écoute de Space Tourism de Zorzni Jor sur RFI. Zornijor sur RFI Space Tourisme, le tourisme spatial. En question avec vous, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace. Vous vous demandez si les touristes de l'espace sont vraiment des astronautes. Bon, moi j'ai ma petite réponse, mais allez-y, cher Philippe Hénarejos.
Oui, bonjour. on se pose la question que tout le monde s'est posée à ce moment-là. Vous vous souvenez de cette espèce de passe d'armes qui a eu lieu entre Richard Branson et Jeff Bezos, deux milliardaires. Ça s'est déroulé le 11 juillet pour le premier acte avec un vol qu'on qualifie de suborbital avec l'avion de Virgin Galactic qui a emporté Richard Branson à un peu plus de 85 km d'altitude pour quelques minutes, quelques poignées de secondes d'impesanteur ou d'apesanteur ou de microgravité. Et puis le 20 juillet, pareil, Jeff Bezos s'est embarqué lui-même dans sa propre capsule avec quelques invités de marque pour aller à un peu plus de 100 km. En fait, à ce moment-là, a eu lieu vraiment un concours de muscles entre milliardaires.
Ben, c'est vraiment ça. Hein.
Et la question a été posée directement par Jeff Bezos, qui s'est montré assez agressif vis-à-vis de Richard Branson, en lui disant, ben, toi, tu es allé qu'à 85 km d'altitude, tu n'es pas allé dans l'espace. Et moi, je suis allé à 107 km, j'ai dépassé la limite qui est de 100 km. Et donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été parues sur les réseaux sociaux. Donc, on a sorti un peu les vieux grimoires de l'armoire pour voir où est la limite de l'espace et donc qui peut prétendre être un astronaute. Et en fait, l'article qu'Émilie Martin a rédigé, l'enquête qu'elle a faite, montre que c'est une question assez complexe.
Évidemment, à partir de quand devient-on astronaute?
Parce qu'il ne suffit pas finalement d'aller au-dessus de cette fameuse limite qu'on appelle limite de Karman, du nom de Theodor von Karman, qui dans les années 60 était un pionnier de l'astronautique. Lui avait calculé à partir de quel moment l'atmosphère est assez rare pour qu'on puisse dire on est dans l'espace et on n'est plus dans l'atmosphère. Ses premiers calculs montraient 80 km. Mais à l'époque, les modélisations de l'atmosphère, c'était pas tout à fait ça. Un peu plus tard, ça a été repoussé à 100 km parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction de l'état de l'atmosphère, de la météorologie et même de l'activité solaire,
ça pouvait s'étendre
un peu plus haut. Donc on voit déjà que cette limite n'est pas nette. Et puis finalement, il y a encore une étude qui a été faite en 2018 sur ce sujet-là. Qui tend à dire que ça fluctue entre 70 km et 150 km.
Donc, aucun d'entre eux
avec une moyenne, on dit, on tombe tous d'accord sur 100 km à peu près.
Mais donc, au-delà de 100 km, c'est l'espace, en dessous, c'est l'atmosphère.
On voit bien
terrestre.
Que c'est arbitraire, il faudrait avoir la condition météo du jour, en fait.
Ça relativise un peu les exploits.
Ça ne suffit pas. Alors, il y en a qui les a mis d'accord, c'est le 16 septembre dernier, c'est Elon Musk, lui n'y est pas allé dans sa capsule, bien qu'il aurait pu, mais il a envoyé quatre apprentis astronautes, touristes, on les appelle comme ça.
C'est des touristes.
Ils sont allés en orbite, ils sont restés 2 jours, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, tout ça est écrit dans l'article. ils ont gravité autour de la Terre de la même manière que Gagarine, que Thomas Pesquet et tous les autres astronautes reconnus. Donc ceux-là sont-ils des astronautes? Alors c'est là que ça se complique, parce que il y a aussi d'autres critères, qui est que, a priori, pour être astronaute, il faudrait aussi faire... Les astronautes sont des envoyés de l'humanité. Mmh. Et selon l'ONU,
De toute l'humanité.
Et ils vont là-haut, non pas pour faire du tourisme, mais pour apporter quelque chose à l'humanité, faire des expériences ou faire des tests en tant que pilote pour assurer la sécurité ou augmenter la sécurité des vaisseaux spatiaux. Et donc, est-ce que ça a été le cas? Alors, pas forcément.
Non,
ils ont bien
vraiment
fait quelques expériences peut-être pédagogiques, mais ils sont surtout fait plaisir.
Ils sont envoyés en l'air, ces milliardaires, on peut le dire comme ça. Voilà.
Et au final, on verra bien l'usage, en fait. Je vous invite vraiment à lire cet article, parce que il faut se transposer dans le passé, au début de l'aviation. Comment appelait-on les premiers les premiers à voler aux commandes d'un avion. Alors, c'était des flyers. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Après, on appelle ça plutôt pilote. Mais aujourd'hui, flyer, c'est plutôt les passagers. Et donc, est-ce que nous, quand nous montons dans un avion de ligne, nous sommes des aviateurs ? Pas du tout.
Pas du tout.
Des passagers. Et finalement, le regard qu'aura la société sur ces vols touristiques, pour l'instant, risque bien de déterminer ce qu'ils sont réellement. Ça risque de finir comme ça, en fin de compte.
Donc, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. on a beaucoup de choses à dire, finalement, sur ce tourisme spatial, qui est vraiment du tourisme. Moi, je n'encouragerais pas spécialement, surtout que ce ne sont que des milliardaires à s'envoyer en l'air, je l'ai dit, dans l'espace. On peut aussi, dans ciel et espace, il n'y a pas seulement la question des astronautes, on peut aussi découvrir... Alors là, c'est carrément un espèce de sac de nœuds dans les bras de la Voie lactée. Philippe Hénarejos, expliquez-nous ça.
Mais en fait, alors là, on va beaucoup plus loin. Là, on était
beaucoup
à 100 km
que
du plancher des vaches. Là, on est à des milliers d'années-lumière. Mmh. On reste, ceci dit, dans notre Voie lactée, qui est le groupe immense d'étoiles auquel le Soleil, le système solaire appartient, qui mesure à environ, c'est un disque avec des spirales dessinées par les étoiles, qui mesure à environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et paradoxe, on ne connaît pas très bien cette Voie lactée à laquelle nous appartenons. On connaît beaucoup mieux les galaxies plus lointaines parce qu'on les observe de l'extérieur. Là, on est complètement à l'intérieur.
Et donc, comment explorer notre propre galaxie, finalement ?
Comment prendre une photo de nous-mêmes ?
Le selfie, mais il faut le bras long.
Même quand vous prenez un selfie, vous ne voyez pas en entier.
Absolument.
Donc, on ne peut pas prendre ce recul. Alors, il y a des méthodes et il y a des satellites, notamment le satellite Gaïa, qui a mesuré des positions très précises de beaucoup d'étoiles, et notamment des étoiles jeunes. Et donc, ces dernières années et ces derniers mois, il y a eu des publications d'astronomes qui ont recherché un petit peu la forme de la Voie lactée et qui découvrent des choses pas très loin de chez nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de bras spiraux dessinés par les étoiles. On est censé appartenir à l'un de ces bras et être entouré par d'autres bras. Il y a des études qui montrent que peut-être il y a encore d'autres bras qu'on ne connaissait pas. On ne sait pas si c'est juste des petites branches qui partiraient des bras existants ou ce sont d'autres bras parce qu'effectivement il y a de la poussière, etc. Et donc les astronomes sont en train d'essayer de cartographier, d'explorer vraiment cette galaxie proche. Je disais tout à l'heure qu'on est à des milliers d'années lumière, mais ça reste, par rapport à l'univers, quelque chose de proche et qu'on ne connaît pas très bien. Et là, il y a un débat entre astronomes. Certains trouvent que les structures qui ont été découvertes sont la preuve qu'il y a plus de bras à la galaxie qu'on ne croyait.
Oui.
Et d'autres disent que ce sont simplement de petites extensions parce qu'on ne voit pas tout très bien, etc. Et donc,
C'est Gaïa qui va pouvoir peut-être
Mais Gaïa a aidé à avoir ces nouvelles données qui permettent ces nouvelles suppositions, mais il n'y a pas que Gaïa. Il y a des observations qui sont faites en radioastronomie parce qu'on suit le trajet d'un gaz qui est l'hydrogène, qui est très présent dans la galaxie et dans l'univers en général, et qui est un traceur de certaines étoiles ou de régions de formation d'étoiles. Et les deux combinés donnent des résultats qui montrent qu'il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais ça ne nous dit pas exactement encore ce que c'est.
Donc peut-être pas un bras,
c'est peut-être une main.
Une main dans notre Voie lactée. Mais jusqu'où allez-vous nous entraîner, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace ? Et puis on peut dire un mot aussi, puisqu'on arrive bientôt à l'année prochaine, à l'année 2022, sur la parution de l'almanach 2022 de Ciel et Espace, qui devrait beaucoup intéresser nos auditeurs astronomes sur le continent et ailleurs.
Voilà, comme tous les ans, nous prédisons ce qui va se passer dans le ciel pendant
l'année. Bien sûr, ça on peut.
C'est fantastique l'astronomie parce que...
C'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie, on est bien d'accord.
Et puis les prédictions sont fiables à
100%. C'est ça.
Donc là, c'est un almanach du ciel 2022 qui vient de paraître, qui est là en kiosque encore pendant longtemps et qui va vous donner tous les rendez-vous célestes à observer à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Et cette année, on a forcé un peu, on a donné de notre personne parce qu'on a inséré dedans tous les petits conseils que nous, observateurs de la rédaction, nous utilisons et toutes les petites astuces qui nous permettent de mieux observer, que ce soit au télescope ou à l'œil nu. Et puis évidemment, dans cet almanach, il y a aussi tous les... C'est pas simplement le temps qu'on vous donne, c'est aussi l'espace, mmh. c'est-à-dire les endroits où, partout en France, vous pouvez aller... en France, et d'ailleurs dans des pays limitrophes, y compris en Afrique du Nord, où vous pouvez aller rencontrer des clubs, voir un planétarium, ou visiter quelque chose d'historique, comme un vieil observatoire, ou tout ce qui peut être de la nature du patrimoine astronomique mondial.
Vous avez les yeux qui brillent parce que vous êtes un vrai astronome. Je ne sais pas si c'est si amateur que ça, Philippe Hénaré-Chauss. En tout cas, nos amis auditeurs astronomes qui sont en Europe ou en Afrique du Nord peuvent se jeter sur l'almanach 2022 de Ciel et Espace. Quant à ceux qui sont sur le continent, évidemment, je vous donne rendez-vous pour notre prochain Ciel d'Afrique, notre éphéméride de tous les 15 du mois. Donc, le 15 décembre prochain sur RFI. Merci Philippe Hénaré-Chauss.
Merci.
On se retrouve l'année prochaine, le 5 janvier 2022, pour une nouvelle infusion de science à partager sur nos ondes et dans vos magazines. Alors je cite donc Ciel et Espace, Science et Vie, Epsilon, Science et Avenir et Cerveau et Psycho magazines qui sont toujours à gagner, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook Avis aux amateurs, et vous êtes nombreux. Je tiens à vous signaler, chers amis auditeurs et surtout internautes, une série de pastilles vidéo à regarder, à écouter sur Internet, réalisée dans le cadre du festival Allez Savoir des sciences humaines et sociales, auquel nous avions participé à Marseille, sur le thème « Tout migre ». Vous y retrouverez donc dans ces petites pastilles les plus éminents chercheurs et chercheuses de l'Institut des hautes études en sciences sociales et de l'Institut Convergence Migration, nous expliquer chacun pourquoi et comment tout migre, à quel point c'est finalement tous les vivants que nous sommes sur Terre, et pas seulement nous, hein, les plantes, les végétaux, les animaux. C'est finalement dans l'ADN de tous les vivants, peut-être, de migrer à bon entendeur. Le lien sur Tout migre est à cliquer sur notre page. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à réécouter, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. On se retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien, pour nous interroger sur le sourire. Que disent-ils de nous, nos sourires, en compagnie d'une philosophe qui en a fait son sujet d'étude. Le sourire, une fenêtre ouverte sur l'humanité, rien que ça. À suivre lundi. D'ici là, portez-vous bien, chers amis auditrices et auditeurs. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, dans quelques instants, ce sera l'heure de retrouver les informations.